Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire le texte de la prédication où nous allons naviguer dans la première épître à Timothée au chapitre 4. 1 Timothée 4, les 16 premiers versets. 1 Timothée 4, des versets 1 à 16. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Et je vais laisser la place à Timothée.
Si c'est Dieu qui me tient la main, je sais qu'il ne me lâchera pas. Si c'est moi qui lui tiens la main, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ou pas. Et bien de même, si c'est le Saint-Esprit qui conduit notre compréhension de la parole de Dieu, eh bien nous n'allons pas nous égarer. Alors que si nous cherchons nous-mêmes à comprendre cette parole, nous allons certainement nous égarer. Nous continuons donc de compter sur l'Esprit de Dieu qui nous guide ce matin dans la compréhension de sa parole. Nous continuons sur la série de prédications-expositions sur 1 Timothée. Je vous remercie pour vos prières, hein, sans lesquelles je n'arriverai pas à préparer ces prédications. Je pense qu'il faut savoir que vos prières font partie d'une œuvre de Dieu puissante pour que ces prédications puissent être préparées et données. Et je me sens bien faible face à cette tâche qui est en même temps fantastique et parfois un peu terrorisante. Exposer la parole est un privilège, une grande responsabilité. Je ne soulignerai donc jamais assez le besoin de prière et j'aimerais vous remercier pour vos prières. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de l'Église. Peut-être que vous vous rappelez de la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et nous avions aussi parlé du mystère de la piété. Ce mystère qui est maintenant révélé et qui est Jésus-Christ et toute son œuvre. C'est ça le mystère qui est révélé. Le chapitre 3 termine, on pourrait dire, par un sommet de gloire. Et le chapitre 4 commence par un profond avertissement. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de deux choses que nous trouvons dans ce chapitre 4. La première, c'est l'abandon. Et la deuxième, c'est son contraire, la persévérance. Deux choses que nous trouvons ici dans ce chapitre. Et ce sera nos deux points pour ce matin, et nous allons nous laisser guider par le texte, et je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes dans 1 Timothée 4, puisque nous allons suivre un peu ces textes ensemble. Donc nous allons relire les versets 1 à 5 pour la première partie. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc dans ce texte, il est dit que dans les derniers temps. Donc les derniers temps, Paul écrit à Timothée au 1er siècle, et quand il parle des derniers temps, de quoi parle-t-il? Ou de quand parle-t-il? Est-ce que cela concernait déjà Timothée? Est-ce que cela nous concerne, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient dans le futur? Eh bien, afin que tout soit clair, je donne une réponse très directe, où on va lire un texte qui nous permet de le comprendre. Les derniers temps ont commencé quand Jésus est venu sur terre. Les derniers temps ont commencé quand Jésus est venu sur terre. Il est écrit dans Hébreux 1, le verset 2, « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Voilà un premier texte qui nous permet de comprendre. Quand Jésus est venu, c'était le début des derniers temps. Depuis la venue de Jésus, nous sommes depuis 2000 ans dans les derniers temps. Et l'Ancien Testament prédisait les derniers temps, et Pierre, c'est un deuxième texte, comme ça si Hébreu ne vous convainc pas encore, nous irons dans les Actes, où Pierre, dans son discours de Pentecôte, lorsqu'il parle de l'Esprit, avec l'imagerie de l'Ancien Testament, dit ceci en Actes 2, 17, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc le Saint-Esprit est donné. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit est donné, donc nous sommes dans les derniers jours. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que vous comprenez que le texte de Paul nous concerne maintenant, depuis l'apôtre Paul, enfin depuis que Jésus est là, et donc l'apôtre Paul et tous ceux qui ont vécu avant nous. Ensuite, il est question d'abandon dans ce texte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est un sujet qui n'est malheureusement pas nouveau. Jésus lui-même a été abandonné par des disciples. Jésus avait des disciples, des personnes qui le suivaient avec une attente différente de ce qu'il enseignait. Ils étaient disciples, mais ils ne croyaient pas en lui. Et à un moment donné, ils l'abandonnent. Donc là, comme c'est une phrase que les enfants peuvent compléter, je vais la redire. Jésus avait des disciples, des personnes qui le suivaient avec une attente différente de ce qu'il enseignait. Ils étaient disciples, mais ne croyaient pas en lui. Et à un moment donné, ils l'abandonnent. Jean 6, 64 à 69 nous le précise. Il a dit ceci. Mais il en est parmi vous, c'est Jésus qui parle, quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. La différence entre ceux qui n'abandonnent pas de ceux qui abandonnent, c'est qu'ils croient et saisissent que Jésus est le Messie promis, Dieu lui-même venu sur terre. Jésus va même dire que des personnes lui disent « Seigneur, Seigneur !» mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, car ils ne font pas la volonté de Dieu. C'est une des marques des faux discoureurs que l'on a ici dans Timothée d'ailleurs. Ça, c'est Matthieu 7 qui le dit quand Jésus dit ceci, Matthieu 7, 21. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur !» n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Celui qui ne sera pas dans le royaume de Dieu est une personne que Jésus n'a jamais connue et qui commet l'iniquité. Mais Jésus connaît tous ceux en qui il vit. Si nous pouvons dire « Christ vit en moi », il vous connaît. Mais dire « Seigneur, Seigneur » ne veut pas encore dire que Jésus vit en nous. C'est la mise en pratique de sa parole, une conscience sensible à ce que Dieu aime et déteste. C'est ne rien enlever ni rien ajouter à l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Et l'abandon se manifeste encore aussi par le départ de la communion fraternelle. Voici ce que Jean dit dans 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. De chez nous. Nous n'avons pas vu qu'ils n'étaient pas des nôtres. Nous étions sûrs qu'ils étaient des nôtres. Mais ils sont partis. Ils ont abandonné leur assemblée. L'abandon peut provoquer un questionnement sur la perte du salut, c'est vrai. Parce qu'on dit, on peut abandonner la foi, on peut perdre le salut. Et là, la parabole du semeur nous aide à comprendre de quel terrain il s'agit ici dans cette foi qui est parlée dans ce texte. C'est le terrain, en fait, de la pierre, du terrain pierreux. En fait, il n'y a que le terrain de la bonne terre qui est un terrain de conversion. Le terrain pierreux est un terrain où il y a de la foi. Et c'est de cette foi qu'il s'agit dans Timothée. Je vais juste vous lire le texte dans Luc, comme ça on a la parabole du terrain en lien avec la pierre. Luc 8 et les versets 5 à 6. Et puis après le verset 13 pour l'explication. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et au verset 13, l'explication de Jésus, « Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. » C'est cette foi dont Jésus parle dans Luc 8, 13, qui est abandonnée dans 1 Timothée 4. C'est de cette foi-là dont il est question. L'abandon est annoncé, nous ne devons pas en être surpris, même si à chaque fois cela nous fait mal. Cela nous rend tristes et parfois cela nous bouleverse. Et pourquoi abandonnent-ils ? Parce qu'ils sont séduits. Et cela est aussi écrit à d'autres endroits dans la parole de Dieu. Il est parlé de la séduction ici, on est toujours dans le verset 1. Et en parlant de ceci, Paul écrit à Timothée, qui est à Éphèse, quelques années plus tôt, il avait dit quelque chose aux anciens. Donc quelques années plus tôt, il a parlé aux anciens, puis ensuite là, il écrit une lettre à Timothée. Bon, on va aller voir qu'est-ce que Paul a dit quelques années plus tôt aux anciens d'Éphèse. C'est dans Acte 20, où il dit ceci. « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux. » Entraîner après eux signifie abandonner Jésus-Christ pour suivre quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus n'est plus roi, le Seigneur, celui à qui l'on obéit, celui qui est notre référence pour le bien et pour le mal, qui n'est plus exclusivement notre maître. On peut parler de Jésus, mais il faut quand même encore ne pas se marier ou ne pas manger certains aliments. Enfin, on va le voir. Hein. Eh bien, ça, c'est de la séduction. C'est de la séduction qui opère. Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, il a écrit à Timothée une deuxième fois par la suite, il dira « Sache que dans les derniers temps surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Des hommes qui font semblant d'être pieux, qui font de grandes prières, qui montrent combien ils donnent d'argent à l'Église, mais qui renient la puissance de la piété. La puissance de la piété, c'est la transformation. C'est la vie fidèle pour ressembler au modèle de Jésus-Christ, même quand personne ne nous regarde. C'est la générosité qui n'a pas besoin d'être vue. C'est l'humilité, c'est l'encouragement, la soumission, la sensibilité, la défense de la veuve, aimant Dieu et la sainteté plutôt que le bien-être. Que le bien-être personnel, prêt même à renoncer à ses droits pour le bien des autres ou pour que Dieu soit mis en premier. Paul dira encore dans sa deuxième lettre à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Les maîtres diront, par exemple, de ne pas se marier, parce qu'en ne se mariant pas, vous êtes plus saints. Évidemment. Toutes les personnes mariées ici vont dire « Bien sûr, si je n'étais pas marié, je serais bien plus saint. » Mais non. C'est aller contre la saine doctrine de la création. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est très bon. Les maîtres diront de s'abstenir d'aliments. Alors que dans la saine doctrine, il est dit que c'est le Créateur qui a fait ces aliments. Nous sommes appelés à les manger en disant merci. C'est ça les actions de grâce, c'est dire merci. Hein, si vous vous demandez pourquoi on dit merci avant de manger, or, il y a deux possibilités. Soit vous dites, ah ben, Jésus l'a fait avant de, par exemple, créer du pain, etc., puis de le distribuer. Mais ici, ce texte nous dit justement que nous sommes appelés à rendre grâce, à dire merci pour ce que nous mangeons. Alors si vous me dites que prescrire de ne pas se marier et s'abstenir d'aliments, ça c'est quelque chose peut-être que Paul pouvait dire à son époque, mais que ça n'existe plus, ben, ce sont par exemple deux exemples que nous trouvons dans le catholicisme romain qui interdit aux prêtres de se marier, puisqu'ils seraient dans un état spirituel supérieur, et qui souvent prône le vendredi l'abstinence de manger de la viande. Je suis allé même voir dans les droits canoniques, je peux vous donner les numéros si ça vous intéresse. Ou bien les adventistes du septième jour qui ont un régime particulier concernant la nourriture. Ou même, par exemple, les mormons qui disent que le café, le thé, c'est interdit dans leur livre de sagesse. Bon, du rigolo, on ne prend pas trop vite. On peut aussi dire, nous, des choses qui sont interdites. Et soyons prudents. Parce que justement, lorsqu'on amène quelque chose, on se dit, en faisant cela, on est plus sain. La séduction arrive. Non. On peut décliner cela dans toutes sortes de variantes, hein, évidemment. Non seulement le mariage, ça peut être interdit, mais ça peut être travesti et ne correspond plus à l'enseignement biblique d'un homme et d'une femme qui se préservent l'un pour l'autre et ne s'unissent qu'après le mariage. Ou bien, pour la nourriture, tout ce qui est véganisme, végétarisme, ceux qui mangent que de la viande ou qui prônent le jeûne, enfin, tous ceux qui vont utiliser la nourriture pour faire croire qu'on en est plus juste que les autres en agissant comme ils le préconisent. Cela nous fait nous éloigner de la saine doctrine que le Créateur fait les aliments et que nous devons les prendre avec reconnaissance et respect. Peut-être que vous vous souvenez ce que Jésus a dit dans Marc 7. C'est assez fort, là, je vais vous lire, comme ça on s'en souviendra tous. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui est dehors et entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait purs tous les aliments. Fin de citation, Marc 7, 18 à 19. Donc la sainteté ne dépend pas de notre situation maritale ou de notre action dans la nourriture, mais de l'œuvre parfaite de Christ. Notre sainteté ne dépend pas de notre situation maritale ou de notre action dans la nourriture, mais dans l'œuvre parfaite de Christ. Matthieu 24 dira encore ceci, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens en raison des progrès de l'iniquité. » L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit ici, l'abandon est lié à la séduction et à l'amour pour Dieu qui diminue. Les moyens pour ne pas être séduit et grandir dans l'amour pour Dieu sont les deux instruments de base de la foi chrétienne, les deux rails sur lesquels le train de la foi va pouvoir voyager et s'approcher de la cité céleste. Ces deux rails sont décrits dans le verset 5 de 1 Timothée 4. Voilà, c'est dans vos Bibles, 1 Timothée 4. Il est dit « Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Donc le train de la persévérance roule sur les deux rails anti-séduction indispensables de la parole de Dieu et de la prière. Le train de la persévérance roule sur les deux rails anti-séduction indispensables de la parole de Dieu et de la prière. Et nous allons justement réfléchir à la persévérance avec les versets 6 à 16 maintenant. Donc je vais relire cette partie et nous allons ensuite réfléchir à quelques outils. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez pendant la lecture, quel est le cœur de la persévérance ? Voilà, ça c'est votre petit travail maintenant pendant que je lis ce texte. Quel est le cœur de la persévérance dans ce que je vais lire ? Alors, 1 Timothée 4, versets 6 à 16. « En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, et elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Bon, quel est le cœur de la persévérance ? Le cœur de la persévérance se trouve au verset 10. Et nous y trouvons un petit mot très important. Alors, j'espère que vous en souviendrez. Il est dit, nous travaillons et luttons, donc vivre un peu tout ce qu'il dit là, de ce qu'il a appelé à vivre, parce que, ça c'est le petit mot très important, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Le mot parce que ici, ou car, ou puisque, nous indique la raison principale de la persévérance qui est vécue ici. Parce que nous travaillons et luttons, parce que, et parce que quoi ? Parce que Dieu a sauvé les hommes. Okay. Elle est vécue parce que l'espérance est mise dans le Dieu vivant, le sauveur de tous les hommes, et surtout des croyants. C'est le salut dont Paul avait parlé dans 1 Timothée 1,15, quand il disait « C'est une parole certaine et digne d'être reçue ». Intéressant, on retrouve cette notion juste au verset 9 qui est introduit ici. Et qui dit que le Christ Jésus, au verset 15 du chapitre 1, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. C'est parce qu'il est sauvé qu'il va travailler et lutter, qu'il va persévérer avec tous les conseils qu'il donne à Timothée dans ce chapitre. Ce n'est pas pour être sauvé, c'est parce qu'il est sauvé qu'il persévère. Et cela change tout. Ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est parce qu'il est sauvé qu'il persévère. Et cela change tout. Sa motivation ne vient pas de pouvoir obtenir quelque chose, comme les faux discoureurs veulent toujours le faire croire. Vous faites quelque chose pour obtenir. Vous ne vous mariez pas pour être plus sain. Vous ne mangez pas pour, etc. Non, la motivation dans tous les moyens de persévérance, c'est l'amour immérité reçu de Dieu. C'est ça la motivation. Si notre motivation est différente que l'amour immérité reçu de Dieu, le Sauveur, qui est le même d'ailleurs pour tous ceux qui sont sauvés, quel que soit son statut social, économique, familial ou politique, c'est pour ça qu'il parle de tous les hommes ici. Mais ça, c'est la motivation que l'on est appelé à avoir. Parce que si vous n'avez pas cette motivation, vous avez toujours l'idée qu'on doit vous payer quelque chose. Toujours. La motivation d'utiliser les moyens de persévérance se nourrit de promesses et non de mérites. C'est notre statut en Christ qui stimule notre persévérance et non une identité à gagner. Alors j'espère que c'est clair pour vous maintenant que c'est parce que ce « parce que » est très important dans ce texte. Pour que nous ne nous trompions pas de motivation, nous allons maintenant voir quelques moyens que Paul présente à Timothée dans cette partie ici pour vivre la persévérance. Les moyens de persévérance. Alors je vais vous faire une petite liste, on en verra 9. J'en vois 9 ici dans ce texte. Et puis ensuite, on va réfléchir à 3 d'entre eux. On ne va pas avoir les 9 aujourd'hui parce que c'est une question de temps. Mais vous pourrez les méditer. Mais je vous les donne les 9. Puis ensuite, on se concentrera sur 3 d'entre eux. Alors, premier moyen de persévérance qui est donné ici dans ce texte, au verset 6, c'est la nourriture des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Ça, c'est verset 6. C'est un moyen de persévérance. Deuxième moyen, verset 7, c'est l'évitement des pièges. Éviter les pièges, c'est aussi un moyen de persévérance. Un troisième moyen, l'exercice de la piété, au verset 8. L'exercice de la piété est un autre moyen. Quatrième moyen, le travail et la lutte, au verset 10. Là, on a avec le parce que, le travail et la lutte. Cinquième moyen, la réponse au mépris par le modèle, au verset 12. La réponse au mépris par le modèle. Sixième moyen, l'application à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, au verset 13. C'est aussi un moyen de persévérance. Septième moyen, l'utilisation des dons reçus, verset 14. Dieu donne des dons. Le fait d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés va nous aider dans la persévérance. Huitième moyen, l'intégrité et le progrès évident. Ça, c'est aussi un élément important, au verset 15. Et le neuvième, la surveillance de sa vie et de ses paroles. Ça, c'est le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Voilà donc 9 moyens de persévérance qui nous sont donnés en comprenant que nous sommes motivés à vivre la persévérance parce que et non pas pour. C'est vraiment important. Donc, je vous ai promis qu'on allait en voir 3. Donc, on va en prendre 1 déjà. Le premier que je vous propose, c'est au verset 6, la nourriture des paroles de la foi et de la bonne doctrine. 1 Timothée 4,6, où il est dit, vous pouvez regarder avec moi, « En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. » Pour être un bon serviteur de Christ Jésus, Timothée devait se nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces paroles de la foi? Eh bien, c'est simplement la parole de Dieu qu'il a entendue dès l'enfance. Paul lui dira dans 2 Timothée 3, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Et là maintenant, beaucoup de personnes connaissent maintenant par cœur les versets 16 et 17 qui suivent ce passage-là dans 2 Timothée 3, hein, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne. Donc se nourrir de la parole de Dieu, c'est si important. Et des fois je me demande, je ne sais pas vous si vous avez déjà posé ces questions, mais je me demande s'il ne faudrait pas que je prenne le même temps pour me nourrir dans la parole de Dieu que le temps que je prends pour nourrir mon corps physique. Franchement, ce n'est pas moins important. Voilà, c'est des questions qui me viennent parfois comme ça, je ne sais pas si ça vous arrive. Et vous savez, certaines personnes n'ont plus de sensation de faim physiquement, ça arrive, hein. Les gens n'ont plus la sensation de faim. Elles doivent donc manger de manière régulière, sinon elles perdent toute leur force et pourraient même arriver à mourir. Eh bien, parfois, vous n'avez peut-être pas la sensation de faim de la parole de Dieu. Et c'est là qu'une planification régulière, comme le font ceux qui n'ont plus la sensation de faim physique, est une aide importante et utile pour ne pas perdre toutes les forces et puis être dans une situation dramatique. Donc pour être un bon serviteur de Jésus-Christ, Timothée devait aussi se nourrir de la bonne doctrine. Là, on a parlé de la parole de Dieu, hein, c'est ce qu'il a dit. Puis ensuite, il a dit de la bonne doctrine. Les doctrines, c'est quoi que quand on dit doctrine, ça veut dire quoi ? Souvent on dit doctrine, d'accord. Il y a des mots comme ça qu'on utilise. Mais c'est quoi la doctrine ? Vous arriverez à la définir ? En fait, les doctrines, c'est les vérités bibliques. Enfin, doctrine biblique, c'est les vérités bibliques. L'ensemble de croyances sur divers sujets. C'est ça, la doctrine. C'est ce que l'on croit de ce qui est écrit. Et afin de se nourrir de bonnes doctrines, il est bon d'utiliser, par exemple, de bonnes confessions de foi. Et la confession de foi de Londres de 1689, qui exprime notre doctrine biblique, qui correspond à ce que nous croyons enseignant ici, est un bon départ. Est-ce que vous avez déjà étudié la confession de foi de 1689 ? Moi, je vous encourage de le faire. Parce qu'il est utile d'être au clair sur beaucoup de sujets. Allez, je vais vous en donner quelques-uns. La théologie ou la doctrine de Dieu, où l'on parle de la Trinité, de la création, des attributs communicables ou non communicables, etc. Ben, chaque croyant devrait être au clair avec ces choses-là. C'est les doctrines. La christologie, c'est quoi ? Ben, c'est la doctrine de Jésus-Christ, où l'on parle de sa double nature, de son incarnation, de sa vie parfaite, de son œuvre expiatoire, etc. Ou encore la pneumatologie. Non, ça n'a rien à voir avec les pneus. Ça va avec le souffle. C'est la doctrine du Saint-Esprit, où l'on parle de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour vous que le Saint-Esprit est une personne, par exemple ? De ce qu'il fait, de ses dons, etc. La sotériologie, ouais, je suis dans toutes sortes de termes là. La sotériologie, c'est la doctrine du salut, où l'on réfléchit à la chaîne du salut, aux doctrines de la grâce, etc. À l'ecclésiologie, hein, qui est la doctrine de l'Église, où on réfléchit à ce qui constitue l'Église. Quand est-ce qu'un groupe est une Église, par exemple ? Le but, les buts de l'Église, sa structure, toutes ces choses-là. L'eschatologie, oh là là, ça continue. C'est la doctrine en fait des choses de la fin des temps. On nous parle du retour de Jésus-Christ et de ce qui se passe après la mort, dont la résurrection par exemple. Ou encore l'anthropologie, hein, qui est la doctrine de la personne humaine. D'ailleurs, on en a parlé vendredi ici lors de l'ACD, hein, en parlant de l'âme humaine, où nous avons vu des dérapages possibles avec la trichotomie, par exemple. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, demandez à ceux qui étaient là vendredi, ils vous expliqueront. Et nous pourrions encore lister tout un tas de sujets éthiques qui doivent être basés sur des vérités bibliques. Ou on pourrait même encore parler de la relation entre l'État et l'Église, etc. Ce sont les doctrines dont Paul parle ici à Timothée. Il doit être attaché à la parole et aux doctrines. Se nourrir de bonnes doctrines, c'est être au clair sur ces sujets d'un point de vue biblique. Ça, c'est un élément important que je dis ici. Se nourrir de bonnes doctrines, c'est être au clair sur ces sujets d'un point de vue biblique. Ce n'est pas donner son avis sur ces sujets. C'est chercher l'avis de Dieu qui nous a révélé dans sa parole. Ce n'est pas mon avis qui est important. C'est l'avis de Dieu qui nous donne dans sa parole. Et vous savez quoi ? Son avis ne change pas. C'est un fondement inébranlable pour notre persévérance. Si Dieu changeait d'avis, il serait très difficile de persévérer. Dans quoi pourrions-nous persévérer? Dieu ne change pas. Ses vérités ne changent pas. Les doctrines de Dieu ne changent pas. Et cela nous permet de persévérer. Voilà pourquoi c'est un moyen de persévérance. Un deuxième moyen de vivre la persévérance, toujours avec la même motivation, que ce n'est pas pour obtenir le salut, mais parce que nous l'avons obtenu, eh bien je prendrai le verset 8, l'exercice de la piété. En verset 8, « gymnazo à la piété », c'est le terme gymnastique ici, hein, « exerce-toi ». « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » En préparant ça, je suis arrivé vers quelqu'un qui faisait le calcul du temps qu'il passait à faire ses exercices physiques et du temps qu'il passait à lire la parole de Dieu et prier pour sa piété personnelle. C'est intéressant. Donc quelqu'un qui faisait le calcul entre le temps qu'il passait à faire ses exercices physiques et le temps qu'il passait à lire la parole et à prier pour sa piété personnelle. Et il cherchait à ne pas avoir moins de temps pour sa piété que pour ses exercices physiques. Je trouve intéressant. Je trouve très intéressant et éclairant. L'exercice corporel est utile. Alors j'ai demandé quelques bonnes raisons de faire de l'exercice physique. Voici ce qui m'a été répondu. Voici de bonnes raisons de faire de l'exercice physique expliqué simplement. Alors, 1. L'activité physique aide le cœur à devenir plus fort, donc garder son cœur en bonne santé. 2. Cela permet d'être plus fort et de mieux protéger son corps, renforcer les muscles et les os. Très bien. 3. Faire du sport peut diminuer le stress et améliorer l'humeur. Ah, c'est bien. Se sentir mieux dans la tête. Ou encore, l'activité physique aide souvent à avoir un sommeil de meilleure qualité, mieux dormir. Bouger régulièrement peut réduire la sensation de fatigue au quotidien, avoir plus d'énergie. L'exercice régulier aide à réduire les risques de plusieurs maladies, rester en bonne santé plus longtemps. L'activité physique aide le corps à utiliser l'énergie qu'il reçoit de l'alimentation, ainsi il maintient un poids adapté. Et par exemple, monter les escaliers, marcher, porter des objets, jouer devient plus facile, être plus à l'aise dans les activités quotidiennes parce qu'on fait des exercices physiques. En résumé, faire régulièrement de l'exercice aide à avoir un corps plus fort, un esprit plus détendu et davantage d'autonomie quotidienne. Ben voilà. Donc ne vous privez pas de faire des exercices corporels. Cela permettra au temple du Saint-Esprit, qu'est le corps du croyant, de conserver de bonnes capacités. Mais souvenez-vous que nous avons encore plus besoin de l'exercice de la piété. Ça, c'est moins visible. Pour ça que souvent, on l'écarte un peu plus. À long terme, c'est très visible. Mais à court terme, c'est souvent moins visible. Mais la relation avec Dieu qui est entretenue par la prière et la lecture de la parole ne devrait pas prendre moins de temps. Sinon, c'est comme si vous renforciez la carrosserie de votre voiture, mais que vous rétrécissiez le moteur. La piété, dit Paul, conduite par l'Esprit Saint, est utile à tout. C'est ce qu'il écrit. La piété est utile à tout. Dans chaque situation que vous vivez, votre relation sera utile, voire même indispensable pour persévérer. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. L'exercice physique, c'est que la vie présente. Désolé, votre corps, vous ne le prendrez pas avec. Cela signifie, par exemple, la présence de Jésus. Oui, ça, c'est une promesse. La promesse de la piété dans la vie présente, voilà. C'est la promesse de Jésus de sa présence. Hein, la semaine passée, on a appris un verset par cœur, Matthieu 18, 20. Quelqu'un arrive à me le dire, là? Les enfants, vous l'avez par cœur? Matthieu 10, 20, car là... là, c'est à peu près ça, hein? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Rappelons-nous que la piété... Donc là, on parlait souvent de piété privée, mais n'est pas seulement vécue en privé, chacun pour soi. C'est aussi vécu en communauté, un peu comme un joueur de football qui a la responsabilité de sa culture physique personnelle. Il n'y a personne qui peut faire ses muscles à lui. C'est lui qui doit faire son travail personnel, c'est vrai. Mais il ne peut pas s'entraîner tout seul pour les phases de jeu, il doit s'entraîner en équipe. Donc là, j'ai une question qu'on peut se poser, c'est combien de temps est-ce que nous nous entraînons avec une équipe de sport ? Est-ce que nous nous entraînons autant avec notre équipe spirituelle ? C'est-à-dire avec l'église locale, qui est l'équipe dans laquelle nous sommes censés jouer, selon la Bible. L'exercice de la piété, parce que nous sommes sauvés, est un grand moyen pour la persévérance. Dans un article que j'ai lu, en réfléchissant à toutes ces notions d'abandon, de foi, etc., alors j'ai vu toutes sortes qui n'étaient pas très encourageantes, mais enfin voilà, il était dit que la plupart de ceux qui ont abandonné la foi, la piété personnelle était inexistante. La piété personnelle, ce sont ces exercices que seul Dieu voit. Donc continuons d'avoir en tête la motivation parce que nous sommes sauvés, pour parler du dernier moyen que nous allons voir ensemble. J'ai dit qu'on en avait trois, c'est le troisième. C'est la réponse au mépris par le modèle, verset 12. La réponse au mépris par le modèle, verset 12. Il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Alors là, j'ai une question. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous méprise ? Est-ce la colère qui vous pousse à reprendre celui qui vous méprise ? Est-ce la tristesse qui vous pousse à vous retirer et vous isoler ? Est-ce l'indifférence en faisant comme si vous ne l'aviez pas remarqué ? Est-ce encore le mépris en retour, traiter l'autre de manière comme il vous a traité ? Ou est-ce encore le doute ou l'apitoiement ou même l'auto-dévalorisation ? Comment réagissez-vous au mépris ? Eh bien, la parole de Dieu ici nous donne une autre piste, une manière bien plus constructive et solide. Face au mépris, soyons des modèles. Face au mépris, soyons des modèles. La réponse au mépris, c'est être un modèle parmi les croyants. Or, s'il est précisé parmi les croyants, c'est pour indiquer de quel type de modèle Timothée est appelé à être. Il n'est pas appelé à être un modèle parmi ceux du monde. Le modèle du monde est basé sur des critères différents. C'est des critères d'ailleurs qui sont définis dans 1 Jean 2,16. Hein, vous le connaissez peut-être, je vous le relis pour l'avoir en tête. Car tout ce qui est dans le monde, ça c'est les critères qui sont là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais du monde. Non, ce n'est pas un modèle parmi ceux du monde, c'est un modèle parmi les croyants. Donc le modèle parmi les croyants est basé sur 5 critères que nous trouvons dans 1 Timothée 4,12. Le modèle parmi les croyants est basé sur 5 critères que nous trouvons dans 1 Timothée 4,12. Vous les voyez, ces 5 critères ? Assez clairement. Hein ? Il y a les paroles, la conduite, l'amour, la foi et la pureté. C'est les 5 éléments. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui veux commenter tout ça, c'est la Bible. C'est simplement des passages bibliques qui vont commenter ces 5 parties. On va l'écouter. Donc pour les paroles, je vous lis Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29, pour les paroles. C'est déjà tout un programme. Ensuite, pour la conduite, nous pouvons lire Philippiens 2, les versets 3 à 5. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. De nouveau, pour la conduite, tout un programme. Chaque fois, en sachant que c'est parce que Christ nous a sauvés que nous vivons cela. Ce n'est pas pour qu'il nous sauve. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on va lire pour l'amour ? Il y aurait 1 Corinthiens 13, excellent. Il y aurait Romains 12, excellent. Mais je vais lire Jean 13, 34 à 35, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. » Les uns pour les autres. Pour l'amour.
Mais lise 1 Corinthiens 13, 4 à 8 et Romains 12, 9 à 21, c'est une très bonne idée. Pour la foi, je vous propose de lire Jacques 2, 4 à 7. Où il est dit, « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, ça c'est à la fin du dimanche, hein, on sait que la personne n'a rien pour vivre, on est ensemble, hein, et puis quand on part, on dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc, une foi vivante. Un modèle de foi vivant. Et ensuite, la pureté. Là, on pourrait lire plusieurs passages. J'en lis un que je vais... Ah non, je ne vais pas le commenter, celui-là. Non, je vais commenter... c'est vrai que j'aurais pu lire celui dans chapitre 5, verset 2. Celui-là, je le commenterai dans une prochaine prédication. Là, j'ai pris 2 Timothée 2, 22, où il est dit « Fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Cette notion de pureté, et il est bon de pouvoir parler de pureté parmi nous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à la mode autour de nous, et il faut que l'on puisse le faire dans un cadre comme celui-ci. C'est vraiment important. Donc rappelons-nous que face au mépris, la meilleure réponse est de chercher à être un modèle parmi les croyants avec ces 5 critères. Et nous n'avons pas à avoir une réaction qui vient facilement, comme j'ai listé tout à l'heure. Ces réactions face au mépris qui viennent très facilement. Chercher à être un modèle ne doit pas être vécu comme une charge. Certains croient, mais c'est une charge. Mais attendez, on devrait le vivre comme une joie et un bienfait. Si vous réfléchissez un instant, en ayant des bonnes paroles, vous vous sentez comment ? Vous dites des bonnes paroles. Vous avez une bonne conduite aimante. Vous êtes rempli de foi. Vous vivez dans la pureté. Mais c'est excellent. C'est excellent. Ce que Dieu nous demande, c'est bon. C'est pas quelque chose de mauvais. Imaginez que vous viviez tout cela pleinement. Vous seriez tout simplement heureux et libre. Le chemin que Dieu nous montre n'est ni un fardeau qu'il veut placer pour nous, ni ennuyeux, mais satisfaisant et paisible, même s'il est vrai que c'est rempli de défis. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais vivre Éphésiens 4, 29 pour les paroles, ben j'arrive malheureusement pas tout le temps. J'ai besoin de m'en repentir, de revenir au Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais par contre, quand je peux vivre un moment avec quelqu'un où je suis dans ses paroles encourageantes, autant je suis encouragé et bien, autant l'autre personne l'est aussi. C'est comme ça qu'on répond à ceux qui nous méprisent. Ce chapitre 4 de 1 Timothée est donc contrasté, on arrive à la conclusion. Nous avons une partie qui nous parle d'abandon, étant séduit et conscient que Satan et ses démons cherchent réellement à nuire. Ça, il y avait tellement de choses dans ce texte. J'aurais pu vous expliquer en fait que toutes ces séductions, elles viennent du diable, il nous veut du mal. Et il va tout faire pour qu'on s'éloigne de Dieu, c'est évident, mais je ne peux pas prendre ce temps aujourd'hui. Par contre, on se rappelle de 1 Pierre 5,8 qui nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Donc ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit qui nous propose d'être plus saints en pratiquant quelque chose en dehors de la vie de Christ qui est décrite de la Bible. Se marier ou non, manger certains aliments ou non, rien du tout de cela ne peut nous rendre plus ou moins saints. De ce chapitre, il y a une deuxième grande partie, ce sont les moyens pour ne pas abandonner et des moyens pour persévérer. Et rappelons-nous donc ce cœur de la persévérance au verset 10. On ne s'attendait peut-être pas à ce que le cœur, c'était un mot « parce que ». Mais c'est le cœur. « Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Donc motivés par le salut de Dieu, nous allons utiliser les moyens de persévérance que nous avons, on en a vu 3, hein, la nourriture de la parole et de la doctrine, l'exercice physique et la piété, et la réponse au mépris. Et moi, je vous encourage à méditer les 6 autres qu'on a vus, qu'on trouve dans ce texte, dans la semaine qui vient, pour se dire, ben tiens, il y a un élément que j'aimerais grandir et progresser. Et je vous laisse une dernière question, en étant réjoui que c'est Christ qui change nos cœurs, c'est vers lui qu'on va. Combien de temps passez-vous à l'exercice physique ou le soin de votre corps qui est utile? Et combien de temps passez-vous à l'exercice de piété qui est utile à tout? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous avions terminé le chapitre 3 dans une situation glorieuse où le mystère est révélé, où nous voyons Jésus-Christ qui est élevé dans sa gloire. Et ce chapitre 4 commence comme une situation tellement difficile où il est parlé d'abandon. Garde-nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remettre tous ceux qui ont vécu ces abandons. Nous savons que tu es un Dieu de patience et que même certaines personnes qui ont abandonné, dans ta grâce, tu vas les rechercher. Et nous t'implorons pour cela. Que, Seigneur, tu puisses les rechercher, que tu puisses les toucher dans ta grâce. Seigneur, nous ne maîtrisons pas cela, mais nous te prions de nous donner cette grâce, d'utiliser les moyens de persévérance que tu nous donnes en nous appuyant totalement et complètement sur ton œuvre de salut que tu as accompli parfaitement en Jésus-Christ et qui nous donne une assurance certaine que nous sommes gardés dans ta main. Sois loué, sois béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.